Francis Cassie.
Madame, Monsieur, bonjour à la une de l'actualité. Docteur Bleu-Pierre Norlandais, président de la CIED, la concertation interpartie pour les élections démocratiques en Côte d'Ivoire, se félicite de ce que les récentes élections municipales et régionales aient été apaisées et invite les candidats qui disent avoir été battus à cause de la fraude de rapporter sa preuve devant la CEI et le Conseil d'État. Pour l'année scolaire 2023-2024 qui débute le 11 septembre, le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SINEPSI, invite le gouvernement à respecter les acquis de la trêve sociale, dont la liberté syndicale, quand le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPCI, lui soutient avoir des attentes, notamment sur la bourse et les ouvrages scolaires. Nigeria, la justice rejette toutes les requêtes contestant les résultats de la présidentielle. Et puis vers la fin de ce journal, l'invité de la rédaction qui est professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il se demande si les nombreux contentieux brandis par les perdants selon les résultats provisoires ou sortis des récentes municipales et régionales pourront significativement modifier la victoire écrasante annoncée du RHDP. Le professeur Jean-Marie Kouakou répondra à cet effet aux questions de Soro Adams. La CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, salue l'environnement de non-violence dans lequel les élections municipales et régionales se sont en général déroulées, tout en conseillant les contestataires à user des voies légales pour leurs réclamations. On écoute son président, Dr Bleu-Pierre Norlandais.
Généralement, l'élection a été une bonne élection apaisée. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées par endroits, mais c'était des actes mineurs. Ça nous a permis de comprendre qu'on a été écoutés par la base en faisant la sensibilisation concernant des élections apaisées. Et donc, c'était un franc succès dans la sensibilisation. Et je pense que nous avons été écoutés.
À la lumière des résultats, on a constaté une forte percée du parti au pouvoir, le RHDP d'un côté, mais de l'autre côté, on parle de fraude massive. Est-ce que cela ne vous interpelle pas?
Nous avons informé et formé nos concitoyens, les hommes politiques, les partis politiques et même les candidats et candidates, nous leur avons dit ce qu'il fallait faire en cas d'irrégularité. Les fraudes dont on parle, s'ils ont les preuves, qu'ils aillent saisir la CEI et le Conseil d'État, qui va voir la véracité de la plainte pour voir s'il faut reprendre l'élection ou pas.
Est-ce que c'est possible qu'en Côte d'Ivoire, on reprenne les élections après avoir saisi le Conseil d'État?
Si les preuves apportées sont suffisantes, je ne vois pas comment le Conseil d'État va dire non. Le Conseil d'État, ce sont les hommes intègres qui sont là-bas, ils pourront s'appuyer sur le dossier et puis vous dire soit si c'est à reprendre ou pas.
Docteur Bleu-Pierre Norlandais, président de la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, joint par Constant Maïli. L'Aide africaine, une ONG qui travaille sur la question de leadership féminin, d'autonomisation des femmes et de leur accession aux postes de décision, salue le progrès en termes de postes obtenus par les candidates à ces élections municipales et régionales, même si, pense cette ONG, la question du quota des femmes reste toujours un combat. Sa présidente, Kaditanou, est jointe par Junior Carté.
C'est un regard hagard pour l'instant, en attendant de faire des analyses beaucoup plus poussées sur la question, sur les différents résultats. Mais déjà, on peut constater que ce n'est certes pas ce à quoi nous nous attendons, mais il y a déjà une évolution. Parce qu'on passe aujourd'hui de 16 maires femmes, anciennement en Côte d'Ivoire, à 24 aujourd'hui. Il y a une légère progression. Mais si on s'en tient au quota qu'on recherche, on est encore très loin. Donc, au niveau du conseil régional aussi, on passe d'une femme présidente à deux femmes. Bon, on prend. De toute façon, on apprend à apprécier tous les petits pas qu'on arrive à faire au fur et à mesure.
En attendant, comme vous le dites si bien et de façon récurrente, d'atteindre un taux de participation femme tête de liste est beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît aujourd'hui.
Exactement. Femme tête de liste, parce que c'était logique, en fait, ce résultat qu'on a aujourd'hui. C'était quasi impossible d'avoir plus que ça, à peut-être quelques chiffres près, pour la simple raison que c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait 30% de femmes sur les listes des candidatures, mais ce n'était pas des têtes de liste. Et donc, si on fait le point aujourd'hui, on dira oui, il y a une avancée. Et on félicite toutes les organisations pour les efforts qui ont été faits. On a encore beaucoup de choses à faire et on retrouve les manches, on ne lâche pas.
Kadita Nouveau, présidente de l'Aide africaine, une ONG qui travaille sur la question de leadership féminin, d'autonomisation des femmes et de leur accession au poste de décision en ligne avec Junior Cardin. Toujours concernant ces municipales et régionales, sur les 18 têtes de liste engagées par le FPI dans ces élections locales, aucune victoire. Propos de Kwaku Kra, le vice-président du FPI chargé des questions électorales.
Nous nous réjouissons d'avoir pris part à ces élections, mais les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Nous avons engagé des têtes de liste et nous n'avons pas obtenu de bons résultats à ce niveau. Nous avons engagé des conseillers avec le RIDP et à ce niveau, le résultat est satisfaisant. Donc, je peux dire que notre participation n'a pas été assez bonne, ce que je peux retenir.
Vous dites n'avoir pas eu de bons résultats. Qu'est-ce à dire précisément? Quels sont vos résultats?
Il y a deux types de résultats. Les résultats avec nos têtes de liste, c'est ce qui n'a pas été bon. Nous avons engagé 18 têtes de liste et nous avons obtenu 0 tête de liste. Par contre, nous avons engagé plusieurs conseillers sur la quasi-totalité des listes du RIDP. À ce niveau, nos camarades ont été élus avec le RIDP. Ça, c'est dans le cadre du partenariat. À ce niveau, je peux dire que le résultat est satisfaisant. Nous sommes installés sur l'ensemble du territoire et aujourd'hui, n'ayant pas eu de tête de liste, nos résultats ne reflètent pas la valeur réelle de notre parti.
Kwaku Kra, le vice-président du FPI chargé des questions électorales, interrogé par Soro Adams. Prochaine année scolaire 2023-2024, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SINEPSI, dit surveiller les acquis de la trêve sociale pendant toute sa durée. Son secrétaire général, Andrew Wandou.
Ce que nous attendons de cette rentrée, c'est surtout les acquis par rapport à la trêve sociale. Nous avons discuté avec le gouvernement, il y a eu des points d'accord, il s'agit de l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique, 30 années après. Il s'agit d'une augmentation de l'allocation familiale, il s'agit également d'une bonification des indemnités de logement, mais surtout le respect des libertés syndicales. Donc nous demandons au gouvernement de tenir ses engagements. Nous avons quelques petites préoccupations. Au-delà de la trêve sociale, c'est un mois, deux mois après que nous avons les kits. Les enfants attendent, les parents attendent. Parce que les parents, on leur a dit que le kit est gratuit. Donc ils attendent. Mais si les enfants ont leur kit, qu'il y a aussi des kits pour les enseignants que nous sommes. C'est ce qu'on appelle le matériel pédagogique. Il faudrait que ce matériel soit disponible. Nous ne voulons plus de cours de mercredi. Nous demandons à nos camarades d'être rigoureux, d'être ponctuels, d'être assidus, de venir à l'école pour qu'on respecte le quantum horaire. Aux élèves, l'école commence le 11, à partir de lundi 11, ils doivent être là. Aux parents d'élèves, nous leur demandons de créer des conditions de réussite de leurs enfants. Travaillant en bonne intelligence avec les enseignants. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires.
L'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire en abrégé OPIC, elle, dit attendre beaucoup du gouvernement par rapport à cette année scolaire 2023-2024. Son président Claude Akakadio.
Nous avons beaucoup d'attentes et nous pensons que le ministère est en train de faire mains et pieds pour que effectivement nos attentes soient acceptées. J'ai participé à près de 8 séminaires sur des thématiques importantes, telles que la bourse scolaire pour les enfants, tels que les ouvrages scolaires pour éviter qu'il y ait des proliférations de livres inventés, l'encadrement rapproché des élèves, le suivi individualisé des élèves pour permettre de maintenir en équilibre les déterminations, les décrochages scolaires et tout ça. En tout cas, il y a toute une série d'activités qui ont été menées en amont, de sorte que nous pensons que cette rentrée est sous de bons auspices et que nos objectifs pourront être atteints. L'un de nos objectifs majeurs cette année, c'est qu'il y ait une assurance scolaire pour protéger les enfants. On ne sait pas à quel moment un enfant peut être accidenté. Et lorsqu'il y a un accident que le parent n'est pas préparé, eh bien, il y a problème.
Avant lui, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, son secrétaire général Andrew Wandou. Et tout à l'heure, vous avez entendu Aka Claude Kadio, président de l'OPIC. Ils ont été joints par Jean-Bélène Mbiti. Région du Bunkani, les acteurs administratifs, les services techniques, les organisations d'éleveurs, les agriculteurs et des personnes ressources expertes en pastoralisme ont eu leurs compétences renforcées. On en sait un peu plus avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le district du Zanzan.
Les défis sont multiples et multiformes. Le défi du déplacement forcé des éleveurs du Burkina Faso dans le nouveau contexte sécuritaire évoqué par Cheikh Ibrahima Ouattara, expert en pastoralisme venu du Burkina Faso.
C'est l'exemple aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui reçoit des éleveurs du Burkina dans les zones pour pouvoir trouver refuge et pouvoir mener à bien leurs activités.
Les défis sur les pistes de transhumance ont été relevés par Toussaint Da Olo, chargé de programme de l'ONG Étoile du Bunkani, partenaire de l'OIM.
Les couloirs de transhumance, les barrages ont été créés pour l'élevage. Ces infrastructures sont vétustes. Du coup, ils sont obligés de passer par des champs des agriculteurs.
Qui entraînent des pressions sur les ressources disponibles et sources des conflits, a expliqué Kambou Sansan, directeur régional de la cohésion nationale, très sceptique.
Donc nous-mêmes, on a des problèmes pour gérer nos bétails. En plus de nos propres bétails, il y a les réfugiés qui viennent avec leurs bétails. Vraiment, donc, ça aggrave la situation.
Identifier les besoins prioritaires et définir la configuration des appuis immédiats pour consolider la coexistence pacifique au sein des communautés est l'objectif final de cet atelier régional d'après Christelle Bredou, chargée de projet à l'OIM.
Définir et mettre en œuvre des interventions concrètes qui répondent aux besoins et qui doivent contribuer à renforcer la coexistence pacifique entre les communautés elles-mêmes et entre les communautés et les transhumants.
La région du Bunkani accueille déjà plus de 30 000 personnes déplacées demandeurs d'asile venues des pays du Nord avec des milliers d'animaux du déplacement forcé lié à l'insécurité au Burkina Faso. Jérôme Kouassi, Bouna, Radio de la Paix.
Une cour d'appel nigériane a rejeté hier mercredi toutes les requêtes des partis d'opposition visant à annuler la victoire du président Bola Ahmed Tinubu lors de l'élection présidentielle contestée de février. Les cinq juges de la cour d'appel d'Abuja au Nigeria délibéraient depuis des mois sur une série de poursuites engagées par le principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple et le Parti travailliste, qui dénoncent fraude et irrégularité à l'élection de Bola Ahmed Tinubu, selon l'AFP. Lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences en Afrique, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains et des leaders de jeunesse et organisations africaines sont réunis du 4 au 8 septembre 2023 à Nairobi, au Kenya. Zeynab Diomandé, journaliste à Radio de la Paix, prend part à ce sommet en tant que jeune leader africain. Elle nous parle des moments forts de ce sommet africain sur le climat.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des centaines de jeunes de toute l'Afrique qui ont demandé à jouer un rôle important dans la prise de décision en matière d'action climatique. Leur déclaration a été le point culminant de l'Assemblée des jeunes africains sur le climat, qui s'est tenue ici à Nairobi du 1er au 3 septembre. Entrepreneurs, jeunes leaders et décideurs politiques ont présenté la déclaration de l'Assemblée de la jeunesse africaine sur le climat au président du Kenya, William Ruto, et au président du groupe de la Banque africaine de développement. Parmi ces propositions, on a la création d'une banque verte mondiale et l'élaboration d'un nouveau pacte financier mondial afin de leur donner la priorité de protéger leurs intérêts dans le financement de la lutte contre les changements climatiques. En ce qui concerne le sommet africain sur le climat, il faut savoir que c'est le tout premier sommet du genre en Afrique et est placé sous le thème « Stimuler la croissance verte et les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde ». Il réunit les chefs d'État, de gouvernements africains, des dirigeants mondiaux, des partenaires de développement, des organisations de la société civile, des chercheurs, des universités et différentes parties prenantes dans le but de relever les défis urgents posés par le changement climatique et de favoriser la collaboration pour un avenir durable. Et on terminera le jeudi et le vendredi avec des activités relatives à la semaine du climat. Zeynab Diomandé depuis Nairobi pour Radio de la Paix.
Place à présent à notre invité de la rédaction qui est professeur à l'université Flotsou-Boigny de Cocody. Il affirme ne pas pouvoir, pour le moment, se prononcer sur la victoire écrasante annoncée du RHDP par les résultats provisoires, puisque, soutient-il, cette victoire est prise dans le tourbillon de beaucoup de réclamations que devra analyser le Conseil d'État. Le professeur Jean-Marie Kouakou répond à cet effet aux questions de Soro Adams.
Bonjour, professeur Jean-Marie Kouakou.
Bonjour, monsieur Soro.
Le samedi 2 septembre 2023, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections locales, entendez élections municipales et élections régionales. Au terme de ce scrutin, Que seriez-vous tenté de dire en termes d'appréciation?
Si on prend les résultats à l'instant, on peut dire globalement que le parti au pouvoir a conforté sa position dominante, ce qui était déjà observable dans les dernières élections municipales et régionales. Là, c'est peut-être même un peu plus marqué au vu des résultats tels qu'ils nous sont parvenus. Je ne pourrais pas faire de commentaires ultérieurs puisqu'il y a beaucoup de contentieux. On ne sait pas à quoi vont voter les contentieux, si ça va modifier significativement ces résultats ou pas, mais j'observe qu'il y a quand même beaucoup de contentieux, beaucoup de réclamations, de candidats qui ne sont pas satisfaits du résultat dans le sens où pour eux ça n'aurait pas été légal. Donc ma conclusion de surface est que on observe une confirmation de la domination du parti au pouvoir au vu des résultats dans leur version actuelle.
Alors, professeur Jean-Marie Kouakou, certains parlent de débâcle en ce qui concerne les partis de l'opposition, singulièrement les grands partis comme le PDCI, le PPACI. Vous le confirmez?
Au vu de ce qui est donné actuellement de lire dans la version provisoire des résultats, on est quand même surpris de voir effectivement que le PDCI, surtout le PPACI, me semble, sont en net recul électoral et la dimension, la grande taille de leur parti ne se confirme pas au vu de ce qu'on observe. Actuellement, le problème majeur étant le problème qu'on observe dans la plupart des élections généralement observées en Côte d'Ivoire et voire aussi en Afrique, c'est faut-il considérer le résultat en lui-même ou faut-il voir tout l'arrière-plan du résultat, à savoir tout ce qui est contesté généralement par les parties perdantes, c'est-à-dire est-ce que le listing électoral, la distribution des cartes, tout ce qui précède a été fait conformément, est-ce que le scrutin a été tenu dans la régularité stricte et entière? Ce sont des questions qui ne permettent pas de faire une analyse définitive et finalement viable. Parce qu'il y a eu tellement de dévoiements du système électoral et des élections même en général, depuis trop longtemps d'ailleurs, en Afrique et en Côte d'Ivoire aussi en particulier, qu'il est difficile comme ça de dire voici les résultats, voici leur signification. Mais pour l'analyse profonde, on est obligé de rester mesuré parce qu'on ne peut pas vraiment dire c'est comme si ou c'est pas comme ça. Par exemple, je constate que curieusement, quand un parti est au pouvoir, quand il a le pouvoir exécutif, il a automatiquement, presque je dirais automatiquement, la majorité électorale du point de vue législatif et municipal, voire régional. C'est presque ce qu'on observe systématiquement.
Et comment pourrait-on l'expliquer?
C'est la grande question, c'est-à-dire, bon, effectivement, en général, les partis qui sont au pouvoir ont quand même une grande longueur d'avance, parce qu'il y a quand même la confiance de la population dans des gens qui gouvernent. Ceux qui gouvernent, en général, donnent plus confiance que ceux qui sont dans l'opposition. C'est presque de nature. Maintenant, derrière ça, est-ce qu'il y a tout un appareillage qui est au profit de celui qui est au pouvoir et qui se servirait donc finalement des moyens de l'État? Ça, ce sont des choses qui se disent et qui s'entendent.
Professeur Jean-Marie Kouakou, en ce qui concerne les résultats disponibles, on parle de percées fulgurantes des candidats indépendants.
Oui, c'est remarquable. C'est pourquoi on est obligé de se poser des questions, parce que surtout, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, mais on a vu qu'il y a eu de grands noms qui sont tombés. Bon. Ça repose la question de la confiance dans le personnel politique visible, le personnel politique qui s'affiche. Parce que l'indépendant, normalement, c'est quelqu'un qui, en principe, n'est pas d'abord automatiquement désigné par son parti. Son parti ne lui fait pas, en principe, confiance pour gagner dans tel endroit, et donc il désigne plutôt quelqu'un d'autre. Mais là, la signification d'un vote régional et local n'est pas la même que celle d'un vote à l'échelle nationale. Et là, on voit bien que les indépendants sont des gens peut-être davantage ancrés dans leur localité que certains que les partis ont donc positionnés à l'avant, mais qui n'avaient pas cet ancrage. Et du coup, aujourd'hui, en intra-parti, on voit bien que là, les indépendants, il y a une véritable percée. Et que la foi même dans la direction des partis commence à prendre du coup, je crois. C'est vraiment très évident sur ce scrutin.
Vous dites que des grands noms sont tombés. Vous penseriez à qui?
Je pense par exemple à Ousou Janou.
Le président du Sénat.
Oui, il y a aussi celui qui a perdu Amsokro, le ministre d'Irasouba, je crois. Voilà, il y a quand même des grands noms qui sont tombés. Et là, ça repose la question de la localité, parce que si on est à l'échelle d'un scrutin régional ou local, et des personnalités qui sont visibles à l'échelle nationale prétendent pouvoir gagner dans ces localités. Or, elles ne sont peut-être pas aussi présentes, et donc leur continuité avec la localité n'est pas là. Il y a vraiment un accident, une rupture entre la localité et l'image nationale que ces personnages représentent. On voit bien que la façon de prendre en compte un personnage politique ne peut pas s'évaluer de la même manière si on se situe à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale.
Alors, professeur Jean-Marie Kouakou, Iopougon, Adama Big Togo, le président de l'Assemblée nationale, a été déclaré vainqueur, mais il y a une contestation de ses adversaires, notamment le PPACI et le PDCI-RDA.
Oui, attendons le contentieux, on va voir ce qu'il va donner. Les candidats déclarés perdants ont dénoncé pas mal de choses, on va voir ce que ça va donner.
Je vous remercie, professeur Jean-Marie Kouakou.
C'est moi qui vous remercie, Soro. À très bientôt, hein.
Voilà, à l'instant, l'invité de la rédaction, le professeur Jean-Marie Kouakou de l'Université Fletcher-Boigny de Cocody, interrogé par Soro Adams, c'est ce qui met fin à ce journal, le rappel de ses titres. Docteur Blaise Pierre Norlandais, président de la CIE de la concertation des partis pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, se félicite de ce que les récentes élections municipales et régionales aient été apaisées et invite les candidats qui disent avoir été battus à cause de la fraude de rapporter sa preuve devant la CIE et le Conseil d'État. Pour l'année scolaire 2023-2024 qui débute le 11 septembre, le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, Synepsi, invite le gouvernement à respecter les acquis de la trêve sociale, dont la liberté syndicale. Quand le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPC, lui soutient à avoir des attentes notamment sur la bourse et les ouvrages scolaires. Nigeria, la justice rejette toutes les requêtes contestant les résultats de la présidentielle du président élu Bola Ahmed Tinubu. Les infos de ce midi, c'est aussi la revue de presse de Jean-Claude Comi. À suivre maintenant.
Bonjour à tous. Quelques jours après la proclamation de la quasi-totalité des résultats des élections locales de 2023, le sujet occupe toujours les devants de la